Dans Réveillez-vous, on parle énergie avec Éric Tétron.
Et il est en studio avec nous ce matin. Il a fait la route pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Éric Tétron. Bienvenue.
Bonjour, ça va bien?
Ben oui, ça va très bien. On avait eu la chance de se rencontrer la dernière fois. Je pense que tu étais venu avec la gang de GNL, là, les gangs, les porte-parole qui...
Oui.
Vantait le projet GNL.
Ouais, supportait, ouais, ouais.
Et je pense du côté de la ville, on est en train de s'apercevoir qu'on a passé à côté de quelque chose.
Tu
hier, quand on parlait des changements de zonage, on vient d'allumer que les grands projets. Monsieur Potvin, je ne sais pas si tu as vu ça passer hier, Monsieur Potvin, qui est grand argentier, mentionnait qu'est-ce qui est mieux, 700 mégawatts, nouveaux mégawatts pour 18 000 nouveaux emplois ou 700 mégawatts qu'on envoie à Rio Tinto pour peut-être perdre 2 000 jobs. La pensée est intéressante, ça.
Ouais.
Pour l'avenir de la région, surtout.
Oui, oui, ouais, écoute, quand on donne des blocs énergétiques comme ça, c'est évidemment parce qu'on veut aller chercher des grands projets. Mais ça donne une idée aussi à quel point c'est l'énergie, mais pas juste l'énergie, mais l'énergie disponible.
Voilà.
Et celle qu'on peut fabriquer en ce moment, qui est un peu le tissu de notre modèle économique, le tissu de notre société. En fait, ce que tu me dis me fait penser que, c'est mon opinion, mais j'ai l'impression que les gens se réveillent à une certaine réalité énergétique, je dirais, depuis l'Ukraine. Pas nécessairement quand les événements sont survenus, parce que quand les événements sont survenus, on parlait de sécurité énergétique, mais je ne suis pas certain que les gens comprennent réellement de quoi on parle quand on parle de sécurité énergétique. Par contre, ce qui semble s'inscrire dans les esprits tranquillement, c'est que les gens comprennent que l'énergie disponible, celle qu'on a à notre portée, c'est avec celle-là qu'il faut travailler en ce moment.
Tout à fait.
Et c'est beau la mondialisation, là, mais on s'est bien rendu compte qu'il faut que ce soit proche aussi parce qu'il y a des certains moments comme une pandémie peut arriver ou une guerre qui fait qu'on vient à court de ces énergies-là.
Oui, oui, tout à fait. Puis cette guerre-là a quelque chose à voir avec des mauvais choix aussi que les gouvernements ont fait en matière d'énergie. Tu sais, on a beaucoup parlé de l'Allemagne récemment. Pourquoi on a parlé de l'Allemagne? Parce qu'ils sont venus au Canada demander quasiment à genoux en passant. Là, c'était quasiment gênant, là. Sont venus quasiment à genoux demander au gouvernement canadien de leur envoyer du gaz pour essayer de remplacer le plus possible et le plus rapidement possible le gaz russe. Mais pourquoi les Allemands, soudainement, se sont retournés vers le gaz naturel? Ben, c'est parce que, surtout, ils ont pensé, dans les années précédentes, être capables de le remplacer avec de l'énergie renouvelable. Et c'est en voyant que l'énergie renouvelable ne livrait pas, parce que l'énergie renouvelable ne livre pas nulle part en ce moment-là. On pourra revenir là-dessus.
On est en préparation, mais il n'y a rien qui livre.
Ben, c'est très intéressant.
Oui, et c'est en voyant que l'énergie renouvelable ne livrait pas que la Russie s'est dit, ben là, on a des gens en position de faiblesse. Tu sais, la faible réponse de l'Europe, parce que c'est quand même une assez faible réponse, on va se dire, là, au problème que l'Ukraine vit, avec l'invasion russe, la faible réponse de l'Europe est certainement due au fait qu'ils sont très, très dépendants
de
l'énergie russe en ce moment. Et donc, je pense que tranquillement, le chemin s'est fait dans les esprits. Les gens se disent, ben, coudonc, je dirais, à un certain moment donné, on peut pas toujours rêver. Il faut travailler avec ce qu'on a, il faut travailler dans la réalité énergétique. Puis je pense que c'est ça plus que la sécurité énergétique
puis,
que les gens...
Puis contrairement à l'essence, le pétrole... Il y en a l'hydrogène. Ici, on en a plus. Là.
Ouais.
Parce que le pétrole, c'est bien beau. On est un peu à la botte du reste du monde parce qu'on n'a pas tant que ça dans le coin. Mais les autres gaz, l'hydrogène, le gaz naturel, on en a.
Bien, le Québec a du gaz naturel, a très peu de pétrole, mais il y a du gaz naturel. Le Canada a énormément de pétrole et de gaz naturel. Les réserves sont immenses. Mais quand le premier ministre du Canada dit qu'il n'y a pas de business case... c'est pas vrai qu'il n'y a pas de business case. Il y en a un. Ce qu'on comprend, c'est que lui,
il
veut pas de business case. Ça, c'est autre chose. Alors, le résultat, c'est que l'Allemagne se retourne vers le charbon en ce moment.
Est-il trop tard pour nous, Éric?
Il n'est jamais trop tard parce que c'est une bonne question, en fait. C'est la question, moi, qui revient le plus souvent. Quand je suis ici dans la région, hier, je me suis fait poser la question, je ne sais pas combien de fois, là, y est-tu trop tard? Non. Il n'est pas trop tard. parce que l'échéance ne cesse d'être repoussée. À tous celles et ceux qui disent ben « là, on a manqué de marché, on ne pourra plus jamais avoir de grands projets ici en matière de gaz naturel », ben, c'est l'équivalent de ceux qui nous disent depuis 50 ans que c'est la fin du pétrole.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Où on avait tout quelqu'un au cégep dans notre classe où il y était un ou deux qui nous disait « ça va être la fin du capitalisme ». Ça, c'était notre communiste.
Fin de la mondialisation.
Oui.
Ça, je me souviens de ça. Manifestation contre la mondialisation. On va mettre fin à ça.
Bien, c'est ça. Alors, non, je pense que les gens aussi se rendent compte que on ne peut pas changer de modèle économique comme ça du jour au lendemain.
Ben non.
Oui, on est dans un modèle... On vit dans une société... dont le modèle économique est le capitalisme, mais l'essence, c'est un mauvais terme, mais à la base de ces sociétés-là, il y a l'usage des hydrocarbures, tu sais, il y a la consommation en masse d'hydrocarbures qui nous a permis d'atteindre le niveau de vie qu'on a.
L'industrialisation, c'est ça que ça a amené.
Bien sûr, et qui rend tellement difficile les négociations avec les pays du tiers-monde, avec l'Afrique, avec tous les pays en développement comme l'Inde qui n'est pas dans le tiers-monde, mais qui se développe tranquillement vers un modèle capitaliste. Parce que là, on est dans une position où on est obligé de leur dire... Ah, ben là, non, là, vous ne pourrez pas atteindre le niveau de vie que l'Occident a atteint. Là, c'est bien de valeur pour vous autres. Il va falloir trouver d'autres moyens. Regardez, là, Kamala Harris est en Afrique en ce moment, puis elle est en train de leur dire, là, non, là, vous ne pourrez pas atteindre le niveau de vie. En fait, ce n'est pas ça qu'elle dit. Ce qu'elle dit, c'est que vous allez être capable d'atteindre le niveau de vie qu'on a atteint, mais faites-le pas avec des hydrocarbures. T'sais, mettez-vous à leur place. Il y a encore du monde dans ces pays-là là, qui meurt parce qu'ils ne sont pas chauffés.
C'est ça.
À un moment donné.
C'est comme un vendeur. Mettons, tu es Colombie, puis t'as le gros vendeur de drogue qui fait le plus d'argent, il va dire aux autres « Non, on fait pas de l'argent avec ça, de la drogue, ça marche pas. » Pour la garder pour lui. C'est un peu pour ça.
C'est ça.
Mais c'est comme je dis aux gens qui disent « c'est long. » Hey, regardez comment c'est long au Québec à faire de quoi. Imaginez mondialement comment c'est long à faire bouger les choses.
Ouais. Le meilleur exemple de ça, c'est la Chine. La Chine est de loin le plus grand consommateur de charbon en ce moment. Là, ils en partent à chaque année, là, depuis des années, là, ils en partent 7, 8, 10 par année des usines à charbon.
Okay?
Mais en même temps, la Chine est de loin le plus grand investisseur en énergie renouvelable actuellement dans le monde. Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Ah, non, tu n'es pas surpris? OK. OK, je comprends pourquoi tu n'es pas surpris. Parce que on cherche aussi en même temps... On cherche en Chine tous les moyens aussi.
Ben, ça en prend tellement, eux autres, d'énergie qu'ils vont prendre tous les moyens.
Pour préparer l'avenir aussi, ils doivent le faire. Puis malgré ça, la Chine nous dit oh, « 2050, c'est un peu de bonheur pour nous autres. On peut-tu parler de 2070? » Puis encore là, c'est pas comme si Jinping en parlait tous les jours. Donc si la Chine qui investit tant que ça en énergie renouvelable ne peut pas l'amener au marché, ben, c'est parce que c'est pas possible. À un certain moment donné, il faut vivre dans la réalité. Alors, c'est ça. C'est que deux ans après les événements en Ukraine, c'est pas nécessairement la question de la sécurité énergétique qui a fait du chemin, je pense, chez les gens. C'est la question de la réalité énergétique. Et dans cette question-là, dans ces paramètres-là de réalité énergétique, il reste encore pas mal d'années de bon marché. Il n'est pas trop tard pour un autre promoteur, ou même le promoteur actuel de GNL Québec, de revenir avec quelque chose, parce que, je vais juste aller rapidement là-dessus, il n'a pas attaqué directement le gouvernement du Québec en cours. On demande une compensation à travers des mécanismes de traité de libre-échange. Alors ça, c'est parce que le promoteur se laisse une porte ouverte pour une reprise de discussion. Et le gouvernement aussi laisse une porte ouverte en disant « Le projet tel quel, on ne l'aime pas. Tel quel, ça veut dire qu'il pourrait peut-être y en avoir un autre à un certain moment donné qui reviendrait. »
Parce qu'il faut voir aussi, faut se souvenir de ce qui s'est passé. Les États-Unis sont devenus le pays qui sont aussi puissants, avec la guerre mondiale, mais aussi dans les années 80, quand... ils ont décidé, on va devenir énergétiquement autonome.
Oui, et ça a été très long avant de prendre les décisions nécessaires. Et c'est le président Obama qui a finalement autorisé la production en masse de gaz de schiste, ce qu'on appelle le châle, qui est le même gaz qu'on a ici au Québec, en passant. Mm-hmm. Là, c'est la même formation, c'est juste qu'on a du meilleur gaz que les autres. C'est fourette, là, on importe de là-bas, mais on a du meilleur gaz que là-bas. Puis il nous coûte trop cher, puis il n'est pas 100 % sûr, parce qu'à un moment donné, les États-Unis, s'ils décident de fournir l'Europe, peut-être que le Canada va en avoir... Bon, en tout cas,
c'est ça.
Je ne veux pas être prophète de malheur, mais relié, ce sont des choses qui peuvent arriver.
C'est être obligé d'être relié aux autres pays.
Ouais. Alors, le président Obama, lui, a dit oui à la production en masse de gaz de schiste et il a renversé une ancienne loi de 1906 qui empêchait les États-Unis d'exporter en masse le gaz naturel, ce qui a donné lieu au boom de GNL aux États-Unis. Ce qui fait qu'au moment où on se parle, les États-Unis sont le plus grand exportateur de gaz naturel dans le monde. Ils mangent notre lunch.
C'est ça. Qui m'écœure du Canada et du Québec. On est toujours... On aime notre petit pain et on veut pas être gros. On pourrait être parmi ceux qui sont les meilleurs là-dedans, mais non, on traîne de la patte, puis non, on va...
Gilles Proulx dirait décoloniser.
Ouais.
C'est ça qu'il dirait. Mais honnêtement, si le projet, tu sais, il voulait se faire ici, c'est parce que c'était là qu'il était le plus rentable économiquement aussi, à quelque part.
Non.
C'était pas ici que c'était le plus rentable?
Non. Parce que ce qui va augmenter considérablement dans les années à venir, c'est pas nécessairement le prix du gaz naturel, ça va être le prix du transport.
Ouais.
Parce que là, on va chicaner pour être celui qui va l'amener. Or, le Québec est beaucoup moins loin que le sud américain et même de Baltimore pour le marché européen. On est pas mal mieux placé que les autres. Notre gaz coûterait moins cher à produire et moins cher à transporter. C'est pour ça qu'ils viennent nous voir, les Allemands.
Ça, c'est une autre chose qu'on réalise pas, parce qu'on regarde pas la carte du monde tous les jours, mais on est proche de l'Europe des deux côtés, en plus.
Oui. On dirait qu'on se rend pas compte des privilèges qu'on a. On a des ports en eau profonde, on a une proximité avec l'Europe. Ouais. L'Europe, ils le savent, eux autres. Là.
Ben oui, c'est pour ça qu'ils sont venus nous voir.
On va aller les voir, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut, ils ont les installations, nous autres.
Regardez comme faut la carte du monde. On n'est pas juste au nord des États-Unis, le Québec, on est aussi à l'est. On est beaucoup plus proche de l'Europe.
Oui.
Alors on sauve à peu
puis
près 30%.
Puis de l'Asie par l'autre bord.
Et de l'Asie de l'autre bord. Par la Colombie-Britannique.
C'est ça.
Donc on sauve à peu près en moyenne 30% des coûts de transport. C'est là que la guerre va se
30%?
Jouer.
30%?
Oui.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup d'argent pour un pays qui importe.
Oui. Écoutez, moi j'étais à Ottawa quand les Allemands sont venus demander au Canada du gaz naturel, puis se sont fait offrir de l'hydrogène, dont honnêtement, d'autres ne savent pas quoi faire.
Là. C'est ça.
Ils étaient extrêmement fâchés. Ils étaient extrêmement déçus et extrêmement fâchés. Écoutez, ils sont venus ici avec leur chancelier. Si, honnêtement,
ce qui est assez rare, là.
Oui. Il n'y a pas... Si vous voulez vous mettre à genoux, là, vous ne pouvez pas faire mieux que ce qu'ils ont fait. Là. Puis ils se sont fait dire non. Et moi, je discutais avec nos collègues, là, les gens qui font un peu la job que moi je fais dans la vie là-bas en Allemagne. Là, puis la question qui revenait toujours, c'est Eric, what is wrong with Canada? What is wrong? Et je te commence à être tanné de me faire poser.
Qu'est-ce que tu répondais, Sagnézé? Je suis curieux de savoir ce que tu répondais à cette question.
Et je donnais la réponse que vous donnez, puis que je pense que les gens donnent aussi, c'est que faites-vous-en pas, là, c'est pas une question de business, c'est une question de politique. C'est que le Canada et le Québec ont décidé de se comporter comme une île en disant, nous autres, on va être les meilleurs au monde.
On veut sauver la planète.
On va sauver la planète.
Tout seul, avec nos 0,3%, c'est ça?
Oui, bien, le Canada, c'est 2%. Le Québec, c'est 0,2%. Mais comme je le dis souvent, c'est comme les musiciens sur le Titanic, quand même, que tu joues le...
le bateau coule quand même.
Le bateau coule quand même. Il faut que tu fasses quelque chose pour empêcher le bateau de couler, là. T'sais? Alors.
Exactement.
C'est ça. Ben, alors, hier j'ai discuté un peu avec
Monsieur Poilievre, qu'on a reçu en entrevue le matin, et qui dit, lui, nous, on veut le plus possible que les industries fonctionnent puis qu'on en importe.
Parce que c'est un gars réaliste. Les gens ont tendance à penser, oh oui, mais écoutez, Pierre Poilievre, c'est parce que là, c'est un gars de l'Ouest, puis il va défendre l'industrie de l'Ouest, puis c'est pas ça, son approche. Son approche, pour bien la comprendre, son approche est une approche de réalité énergétique. La bonne énergie au bon moment, à la bonne place. Et c'est là-dedans qu'on vit en ce moment. C'est la meilleure chose qu'on peut faire. C'est une chose qu'il comprend très bien. Alors hier, il a repris l'engagement. Il n'était pas ici nécessairement pour ça. Là. Il est venu parler il est venu parler du couvert forestier, du bois, des jobs. C'est nous autres, ben les caribous.
Ben, c'est nous autres ou quelques caribous.
C'est ça. Mais je pense que son message était clair. Puis hier, on a discuté. Puis hier, moi, je lui ai dit, écoutez, moi, je vais continuer à me battre. Je vais continuer à me battre pour ça, parce que je pense que c'est la chose à faire maintenant. On verra dans 5 ans, dans 10 ans.
Parce que ce qui est certain, c'est que si les libéraux reviennent au pouvoir, on va s'attendre à ce qu'il n'y ait aucun développement de ce côté-là. Là. Ils ne sont pas intéressés, ça paraît.
Quoique, du côté de GNL, c'est Québec qui a refusé, c'est pas le Canada.
C'est Québec qui a refusé, mais le premier ministre du Canada a commencé certaines prérogatives. Disons qu'il y a la main sur certains dossiers. Il y a toujours des choses possibles entre Ottawa et les provinces. On verra, le Québec a de gros problèmes de production d'électricité à l'horizon.
Je viens de trouver un nouveau nom pour Justin Trudeau.
Oui.
En regardant ses mandats présentement, là, tout ce qu'il a fait, là,
oui.
La seule chose qu'il a fait, là, c'est l'homme qui plantait des arbres.
Même ça, il ne l'a pas fait.
Ah, il l'a pas fait finalement? Non, parce qu'il avait promis combien de milliards d'arbres?
Oui,
de
mais, vous, oui mais vous verrez que
il pas
ça,
fait.
Non, ça avance pas beaucoup. Puisqu'on en parle, dans les accords de Paris, on parle juste dans les accords de Paris des cibles qu'il faut atteindre,
ouais.
Qu'on n'est pas capable d'atteindre, évidemment.
Bon, non, c'est ça.
Ça ne donne rien de faire de la surenchère quand tu n'es pas capable de les atteindre. Ça aussi, les gens commencent à comprendre ce game politique-là, là, un peu nocive qu'on a devant nous. Mais dans les accords de Paris, il est spécifié que vous êtes tenu comme pays de consacrer un minimum dans l'investissement des énergies vertes. Et le Canada ne remplit pas du tout ses obligations là-dessus.
Puis au contraire, parce que tout ce qu'on a fait depuis, c'est des gaz de schiste et du gaz de l'essence, du pétrole.
Voici une chose qu'un ministre de l'énergie conservateur pourrait faire dans les premières semaines d'un mandat conservateur. D'ouvrir la porte aux projets de production et d'exportation de gaz naturel partout sur le territoire du Canada. Mais annoncer en même temps que ta cible comme pays, là, c'est pas seulement d'essayer d'atteindre tes réductions d'émissions au Canada et dans le monde, mais ta cible, c'est devenir le premier pays du G7, c'est-à-dire d'être le meilleur pays dans le G7 per capita pour l'investissement en énergie renouvelable. Rends le capital disponible, travaille avec l'industrie, libère les capitaux pour qu'on soit capable de développer les meilleures technologies vertes au monde et de les exporter. Moi, je pense que ça s'annonce dans la même journée, ces deux choses-là.
Donc, si on regarde ça comme faux, on pense que les libéraux sont les verts, mais dans le fond, les conservateurs le sont plus?
C'est-à-dire que les conservateurs sont plus réalistes, à mon sens. Les libéraux, il y a trop de politique, il n'y a pas assez de...
D'action.
Il n'y a pas assez de bon sens dans l'application des politiques énergétiques. Tu peux pas... Souvenez-vous que le premier ministre du Canada a dit, il y a un an ou deux, ou je pense que c'est plus deux ou trois ans, qu'on va fermer ça, cette industrie-là, là, dans l'Ouest canadien. Là. Hey. Deux choses. Un, c'est 10 % du PIB du Canada. OK? Fait que moi, là, tu peux me fermer demain matin si ça te tente, mais annonce-moi donc comment tu vas me remplacer dans l'économie.
C'est ça.
OK? J'aimerais ça avoir un
ça
plan
concret. Ça va être quoi,
concret.
L'alternative?
C'est ça. L'autre chose là-dessus, c'est... Moi, je pensais que... L'objectif, c'est de réduire les émissions. C'est pas de tuer l'industrie. Tout à coup qu'on peut réduire les émissions avec le concours de l'industrie.
Ben oui.
Ça, pour moi, c'est une approche plus réaliste. Et je pense que l'approche de M. Poilievre, dans ce sens-là, est plus réaliste.
Éric Tétrault.
Hey, t'as peu, juste pour finir, oui. Là, je vais te dire une phrase que George W. Bush a dit pour vrai.
Oui.
OK? Ça a un peu un lien avec ce qu'on parle.
Oui.
Il dit, c'est pas notre pollution qui attaque l'environnement. C'est les impuretés dans l'air et notre eau qui sont responsables.
OK, oui.
Il avait déjà dit, il a dit ça pour vrai.
Pas pour rien qu'il est, il rit de lui souvent.
Mais je pense qu'au Texas, il prenait juste la première moitié de la phrase.
Ça se passe, c'est ça. Éric Tétrault, merci beaucoup de ton passage.
Ça m'a fait plaisir.
T'es bienvenu n'importe quand.
Très apprécié.
Je vous en prie, je vais revenir. Puis là, je me demandais toujours pourquoi des fois vous me posez des questions puis vous hésitez puis tout ça. Là, je viens de comprendre, c'est parce que vous parlez tout le temps de vous autres puis vous écoutez Mario Dumont pendant ce temps-là. Puis, c'est toujours comme ça. Ou...
Non. Normalement, on est...
C'est pire.
C'est les petits bonhommes le matin.
Est-ce que je peux saluer votre ancien maire, Jean Tremblay?
Oui?
On me dit qu'il écoute la chronique de temps en temps.
Oui.
M. Tremblay, moi, j'ai pas mal travaillé en politique. Puis des quotes politiques là, d'élus puis de ministres puis de premiers ministres, là, j'en ai tout un sac. Très drôle à vous donner, mais Jean Tremblay a dit un jour une des choses les plus drôles en politique. Il y a un journaliste qui lui demandait, mais là, vous n'êtes pas en train de... Il y a un journaliste qui lui demandait pourquoi il faisait telle ou telle chose. Il a répondu, puis après ça, il dit, mais là, vous êtes pas mal à contre-courant. Puis là, il a répondu, ben oui, mais il y a juste les poissons morts qui suivent le courant. S'il m'écoute, je voudrais dire que c'est une des choses les plus drôles, les plus pertinentes que j'ai entendues en politique dans ma vie.
Très bonne, très bonne. Éric, merci beaucoup.
Merci.
Puis parlant de Jean Tremblay, dans quelques instants, on va aller rejoindre son bras droit, je dis cela à Hervé.